Yo l'équipe, bienvenue chez Iggy pour un nouveau podcast. J'espère que tu vas bien et que tu es chaud pour écouter une nouvelle analyse football. C'est au programme aujourd'hui. Je voulais revenir sur mon précédent épisode où je parlais de la santé mentale dans le foot. En me réécoutant et en lisant les dernières infos, je me suis dit un truc. Si les actus santé mentale s'accumulent et si les joueurs s'ouvrent de plus en plus, c'est parce que je pense leur environnement peut être super toxique. Je t'explique ça tout de suite. Alors, la santé mentale des joueurs est à rude épreuve et c'est parce que leur environnement peut être très toxique. Dans mon précédent podcast, que tu peux toujours écouter d'ailleurs, l'épisode s'appelle « La santé mentale dans le foot, des progrès et du chemin », j'expliquais que je regardais beaucoup d'interviews de joueurs en activité et retraités, pro et semi-pro. Plusieurs d'entre eux évoquent les passages à vide qu'ils ont connus, c'est par exemple le cas de David Beckham. D'autres ont vécu des dépressions, comme Kevin Prince-Boateng, Yann Mvila ou l'anglais Dele Alli. Les témoignages s'accumulent et à les écouter, j'ai conclu que l'environnement des footballeurs pouvait être très toxique et que forcément, cette toxicité, elle t'atteint. Là, tu me demandes, c'est quoi les éléments toxiques dans la vie d'un footballeur? Pour commencer, le foot et le sport de haut niveau, c'est un domaine de performance. Ta crédibilité, elle est basée sur ton niveau de performance. Si tu performes bien, tu joues, t'es un joueur important, t'as une voix qui porte et une opinion qui compte, ça stimule. Si c'est pas le cas, t'es sur le banc. T'es pas important ou alors moins important, t'es un joueur de second rang quoi. Et ça, c'est moins stimulant. Le métier de footballeur, il est aussi synonyme d'une certaine précarité. Alors tu peux être très bien payé quand t'es là-haut, genre Ligue 1, Ligue des Champions, International. Mais ce sont des contrats généralement courts, entre 3 et 5 ans quand tu t'engages. Et c'est encore plus court quand tu joues en National, National 2, N3. Là, c'est souvent des contrats d'une saison. Les effectifs bougent énormément d'une saison à l'autre. Tu peux parfois être amené à bouger après 6 mois, selon tes performances toujours. Et tu peux aussi te retrouver sans club. Tout ça, les prolongations, l'intérêt d'autres équipes, etc., ça repose sur tes performances. Donc pour avoir une stabilité et être au moins sûr de trouver un club, il faut être performant, il faut que tu joues. Il y a cet impératif de la performance qui amène une pression, et ça complète mon point précédent. Pour être performant, faut être en bonne santé, ça va de soi. T'es jamais à l'abri d'une blessure qui t'écarte des terrains plus ou moins longtemps, et dans le foot, le blessé, forcément, on le remplace. Évidemment, il y a un suivi médical, tout ce qu'il y a de plus professionnel, pas de problème. Mais une blessure, ça peut affecter mentalement. Déjà parce que le terrain te manque, quand t'es chez le kiné et que tes collègues s'entraînent, quand t'es dans les gradins et que tes collègues jouent, ça fait quelque chose. Moi, ça m'est arrivé à mon tout petit niveau et je n'ai même pas cet impératif de performance. Je fais pas du football loisir non plus, mais je reste un footballeur amateur. Alors j'imagine même pas ce que ressent un blessé pro ou semi-pro qui a cet impératif de performance, ce besoin vital d'être sur le terrain, de jouer et de se montrer. Et c'est bien une nécessité, un besoin vital, parce que pour obtenir une prolongation, pour attirer l'attention d'autres équipes, pour avoir un contrat, tout simplement, il faut que tu sois sur le terrain et que tu joues. Ça, c'était le volet uniquement sportif de quand la réalité du terrain peut affecter le mental d'un joueur. Maintenant, tu as aussi tout l'aspect extra-sportif. Qu'est-ce que j'entends par extra-sportif ? C'est le mode de vie d'un joueur, sa famille, son entourage, ses fréquentations. De ce que j'observe, l'environnement d'un joueur peut être très toxique et donc l'affecter mentalement. Alors imagine, cette vie, elle fait de toi quelqu'un de méfiant, parfois méfiant de ta propre famille qui peut se retourner contre toi. Je pense aux affaires Pogba ou Adebayor, l'international togolais qui se faisait littéralement racketter par sa famille jusqu'à recevoir des menaces de mort. Tu as aussi toute cette cour qui se bat pour ton attention, ton ou tes vrais conseillers, ceux qui veulent être tes conseillers, les amis, entre guillemets, qui sont en fait des profiteurs, des gratteurs, qui veulent seulement profiter de ton aura, de ta notoriété ou de ton argent. Tu as aussi les influents qui ont des connexions et qui murmurent ici et là, qui disent aux joueurs « tu devrais faire ci, faire ça ». Ça, c'est donc l'aspect de l'entourage. Ça peut être très politique, ça peut être une véritable partie d'échec. Et parfois, c'est le joueur ou les faveurs du joueur qui constituent le prix à gagner. Pour finir, tu as les médias et le public. Alors, j'avais parlé de l'influence du public dans mon précédent épisode. Une influence encore plus grande avec les réseaux sociaux parce qu'ils donnent aux internautes un accès direct aux joueurs. Mais faut se le dire, les médias, c'est d'un toxique incroyable. Et c'est un journaliste qui te dit ça. Par exemple, les débriefs de la chaîne L'Équipe et de RMC Sport, mais allô, moi je trouve ça effarant. Alors c'est une chose, les médias qui fustigent les performances des joueurs, ça fait partie du jeu, pas de problème. Quoique parfois, tu regardes ces chroniqueurs à la télé et tu te dis, alors lui, il fait pas 10 jongles, il a zéro condition physique, il est essoufflé quand il monte des escaliers, mais il est sur un plateau et il l'ouvre. Je viens de voir une séquence d'un journaliste de L'Équipe qui notait en live les joueurs de l'équipe de France après France-Écosse. un type se permet de mettre 3 sur 10 à Kamavinga. Et le gars, il a clairement pas la dégaine d'un footeur. Même pas la dégaine d'un sportif tout court. L'audace de ça, incroyable. Les médias qui notent les joueurs, c'est une aberration ça aussi. Surtout quand tu sais que c'est toujours biaisé. Pire encore, il y a des joueurs pour qui ça compte et qui, pour avoir de bonnes notes, entretiennent de bonnes relations avec ces journalistes, sont dispo pour des interviews et glissent parfois des tips même. Ça aussi, faut être un joueur mentalement affecté pour accorder à ça autant d'importance. Le pire dans tout ça, c'est que le rôle des médias sportifs, maintenant, il dépasse le simple cadre du sport. Je pense au rôle qu'ont joué les médias dans le premier bad de David Beckham après son exclusion en 8e de finale de la Coupe du Monde en 1998. Les tabloïds, les gros titres, les paparazzi, ça virait au harcèlement. Le rôle des médias dans l'affaire Keira Amraoui, l'ex-joueuse du PSG qui s'est fait agresser. Alors ça, c'était une affaire à la scandale. T'avais des manœuvres politiques, des promesses, l'intervention de conseillers et de proches de joueuses, les commentaires de journalistes, le volet justice, puis ça a débordé sur le sportif évidemment, avec une joueuse écartée du groupe, les opinions du public qui s'exprimaient sur les réseaux sociaux et dans les stades, le départ d'Amraoui du PSG, etc. J'ai perdu le fil de cette affaire, mais tous les ingrédients d'un environnement toxique étaient réunis. Et la santé mentale des joueuses, l'état du vestiaire, la gestion de crise en interne, j'imagine même pas. Et tiens, il y a une nouvelle confirmation du rôle toxique des médias avec l'affaire Karim Benzema. Le ministre de l'Intérieur Darmanin affirme à la télé qu'il a des liens notoires avec l'organisation des Frères musulmans. D'autres politiques et d'autres médias s'en emparent. Il y a des commentaires de partout, sur fond d'islamophobie évidemment, parce que c'est ce que dégagent ces politiciens, Darmanin et Zemmour en tête. Ajoute à ça le contexte de l'attentat d'Arras et la situation en Palestine, c'est tout simplement insoutenable. Et d'ailleurs, grosse force à Benzema qui doit supporter tout ça. Tu vois, faut vraiment avoir un mental de fou pour tenir. Parce que j'ai l'impression qu'ils font tout pour le pousser à dire ou à faire une dinguerie. Alors heureusement, ce ne sont pas tous les joueurs qui vivent ça. Mais quand t'entends parler de tout ça, quand les joueurs s'ouvrent et que t'apprends qu'un Alexis Beka veut mettre fin à ses jours en se jetant d'un pont, que le Brésilien Richarlison veut consulter de lui-même, bah je t'avoue que ça dégoûte un peu. Le sport est beau, mais l'environnement, il fait plus vraiment rêver. Et parfois, quand je me dis que moi je rêvais d'être footballeur, bon en vrai, j'étais clairement pas assez doué, j'avais pas assez envie et je me suis clairement pas donné les moyens, mais je me dis que peut-être, Dieu m'a sauvé de quelque chose. C'est tout pour moi. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, fais-le savoir par un like, un partage ou un message. N'hésite pas à réagir aussi. Tu as certainement un avis très intéressant sur la question et je suis curieux de le connaître. T'étais chez Iggy pour un deuxième épisode spécial foot. Ouais, j'étais inspiré. On se reparle très vite. D'ici là, prends soin de toi. Peace.